Mosaïque.
Chaque semaine, une interview pour mieux connaître les acteurs de la vie locale.
S'ouvrir sur le monde, sur les cultures, découvrir leur parcours.
Parce que s'écouter les uns les autres, transmettre, c'est apprendre à vivre ensemble.
Aujourd'hui dans le magazine Mosaïque sur Info RC, Yvan, Tessa, Omar, Tatiana et moi-même, Mathurin, recevons une invitée dans le cadre des parcours santé et avenir.
Tout d'abord, commençons par votre métier. Vous êtes orthophoniste. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors tout d'abord parce que c'est un métier de contact, puisque les patients viennent nous voir avec des pathologies très variées. On suit des patients qui peuvent avoir 3 mois jusqu'à 80, 90 ans. Et donc c'est un métier extrêmement varié. C'est un métier qui a du sens puisqu'on aide les autres. Donc c'est très valorisant pour soi. Quand on voit que les patients vont mieux, qu'ils progressent, on rentre chez soi, on a l'impression d'avoir réussi notre journée. Et au niveau de la pathologie, c'est extrêmement varié. On peut faire de la voix, on peut faire de la déglutition, on peut faire des maladies neurodégénératives, des personnes qui ont des AVC, des enfants avec des troubles 10, même des adultes. Donc c'est extrêmement varié. Et donc, on ne s'ennuie jamais, en fait.
Depuis quand vous pratiquez ce métier ?
Alors, en fait, c'est une reconversion. Donc, ça fait 14 ans que j'exerce le métier. Et je pense que je suis meilleure. Enfin, les 10 premières années, j'ai beaucoup tâtonné. Il faut du temps pour être un peu meilleure dans les professions.
Quelles études faut-il faire pour exercer ce métier ?
C'est le dossier Parcoursup. Et ensuite, chaque école propose des épreuves orales, une ou deux épreuves à l'oral. Donc c'est une forme de concours.
Quelles sont les matières les plus importantes pour devenir orthophoniste ?
Le français. Il faut être très bon en grammaire et en orthographe. Éventuellement les mathématiques, puisqu'on peut faire des rééducations en logico-maths. L'orthophoniste, c'est un peu l'expert en communication, donc il faut être très à l'aise dans le langage oral et écrit.
Et vous avez parlé aussi de déglutition, de troubles 10, etc. C'est aussi lié à la SVT
Alors, en fait, non, on n'est pas forcément la SVT. Une fois qu'on fait des études d'orthophonie, on va apprendre le corps. On va apprendre. En fait, c'est extrêmement intéressant, les études d'orthophonie. Et là, ce qu'il faut connaître, on va l'apprendre à ce moment-là. Mais on n'est pas forcément. Il n'y a pas besoin d'être très bon en biologie. En fait, il faut, je pense, plus avoir une personnalité aussi, empathique, à l'écoute, sans jugement. Et c'est ceux qui le regardent aussi pendant les épreuves orales. Il faut être bon, mais il faut aussi, je pense, avoir une personnalité.
Est-ce qu'il faut aimer parler ou écrire pour faire ce métier ?
C'est un métier de contact, donc il vaut mieux aimer parler. Il faut savoir écouter. Et écrire, oui, il y a la rédaction des bilans, de notes. On a pas mal d'écrits à faire, malgré tout. Donc oui, il faut être vraiment à l'aise, et à l'oral et à l'écrit.
Avez-vous déjà rencontré des cas très difficiles ou émouvants ?
Forcément. Dans le soin, on a beaucoup de cas émouvants ou difficiles. Par exemple, il y a la maladie de Charcot, la SLA. C'est une maladie qui fait que les muscles s'atrophient. Donc petit à petit, les personnes ne peuvent plus communiquer, ne peuvent plus parler et ont gardé toute leur capacité intellectuelle. Et donc petit à petit, en fait, ils ne peuvent plus communiquer et il y a la mort au bout. Donc c'est très compliqué d'accompagner ces gens-là parce qu'ils ont conscience de la déchéance et de la perte chaque jour de leur capacité. Donc c'est très dur.
Quelle qualité faut-il avoir pour devenir orthophoniste ?
L'écoute, la patience, l'empathie et ne pas être dans le jugement de valeur. Celui qui vient... On n'a pas le droit ni de juger sa religion, ses idées politiques, ces orientations, enfin voilà, ce sont des personnes et on doit les accompagner au mieux.
Passons maintenant à votre quotidien. En quoi consiste votre travail exactement ?
Alors, un patient va nous appeler au téléphone, donc on va prendre l'appel. Ensuite, on va proposer un bilan. Donc le patient doit demander à son médecin une ordonnance puisqu'on est remboursé par la Sécurité sociale, c'est un métier du soin. Ensuite, on va faire un bilan qui dure environ 2 heures pour objectiver les difficultés. Soit le patient a des scores dans la norme, auquel cas on ne le reverra plus, on rédige malgré tout un bilan. Soit les scores sont pathologiques et ensuite on va le voir toutes les semaines, 1 à 2 fois par semaine, voire plus vraiment dans des cas exceptionnels. Et ceci pour quand même une durée assez longue. C'est plutôt des rééducations qui durent longtemps. Et selon la pathologie, la rééducation dure 1/2 à 3/4 d'heure. Donc en fait, la journée type, c'est d'enchaîner les patients les uns derrière les autres.
Avec qui travaillez-vous ?
Alors, soit on travaille dans des structures, auquel cas, en général, il y a plusieurs professionnels. Et donc, c'est un échange, une équipe pluridisciplinaire, composée de médecins, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues également. Soit on travaille en libéral, et en général, on est seul. Mais on prend régulièrement des appels ou on communique régulièrement avec d'autres professionnels, ou l'école, ou le collège, ou les infirmières, enfin, on est très souvent au téléphone pour échanger sur le patient.
Et vous, vous êtes dans quelle situation ?
Effectivement, je suis en libéral.
Comment décririez-vous l'impact de ce métier sur votre niveau de fatigue et de stress ?
Alors, c'est un métier qui est assez fatigant intellectuellement parce qu'on va enchaîner les patients. Donc toutes les 2 heures ou 3 quarts d'heure, il y a un nouveau patient. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup d'énergie et toujours qu'on doit être en capacité d'écoute et de bonne humeur, puisque le patient, il vient, il faut que ce soit un moment agréable pour lui, positif. Voilà, donc c'est assez stressant, enfin c'est assez fatigant, parce qu'à la fin de la journée, on a dû écouter toute la journée chaque patient, et avec la même qualité d'écoute si possible, du matin au soir. Stressant, bon, c'est pas aussi stressant qu'un métier comme pompier, j'imagine, ou chirurgien, mais malgré tout, on a envie de bien faire parce qu'on a de l'humain en face et on peut se mettre la pression en se disant « mais là, ça marche pas, ça n'avance pas, qu'est-ce que je peux faire ?» Et on se stresse soi-même, en fait, parce qu'on a envie de bien faire.
Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ?
Alors, essentiellement le contact avec les patients ou la famille, hein, bien sûr. Étant donné qu'on les voit toutes les semaines, il y a vraiment une belle relation qui s'installe. Parce que petit à petit, on les connaît bien malgré tout. Enfin, ça reste des patients, mais... Et ils nous remercient, on sent qu'ils font des progrès, ils sont plus détendus, plus rassurés. Et toute la famille va mieux, d'ailleurs. Quand y a un patient qui va mieux, c'est tout l'entourage également. Donc ça fait beaucoup de bien. Et souvent, d'ailleurs, ils nous remercient, voire on a des cadeaux. À Noël, j'ai des cadeaux. Et puis en fin de rééducation, quand ils s'en vont, parfois j'ai pu avoir beaucoup de plantes et puis des crèmes. Enfin, il y a tout un... Les gens vont... Des bijoux où l'adolescent va aller avec sa mère dans vraiment un beau magasin de bijoux pour me ramener une bague. Enfin, c'est super émouvant, en fait. Et puis parfois, on les revoit après. La dernière fois, je suis à la Biocoop et il y a une jeune qui m'a dit « mais je vous connais ». Et en fait, voilà, on a discuté et elle en gardait un bon souvenir, tant mieux. Et puis sinon, ce que j'aime le plus, c'est la liberté. C'est être libre, ne dépendre de personne. Décider que les horaires, ça sera tel jour, que je pars en vacances quand je veux et que je n'ai de compte à rendre à personne.
Et ce que vous aimez le moins ?
Il faut rédiger des bilans. On a beaucoup, beaucoup d'écrits. Et d'ailleurs, en général, on consacre une journée à ça. Enfin, pour ma part, je travaille 4 jours. Et il y a une journée qui est consacrée à la rédaction des bilans, aux notes, aux prises de notes, aux appels, à la comptabilité. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fini. On est toujours préoccupé par un bilan qu'il faut rendre. Et puis aussi, beaucoup de gens appellent désespérés en nous disant « mais comment je vais faire ?» Et on ne peut pas répondre à la demande, puisqu'on a très peu de turnover. Donc, on est obligé de dire non ou de ne pas rappeler. Et pour certains ne verront jamais d'orthophoniste. Et bon, ça, ce n'est pas très agréable. Voilà. Et puis aussi, de devoir être tout le temps en extrême concentration. C'est vrai qu'il y a une vraie fatigue. Le soir, quand quelqu'un me parle, j'avoue que je souhaiterais être seule sur une île, parfois. Voilà. Mais bon, ça reste un métier quand même super agréable.
On aimerait aussi aborder avec vous les troubles de 10. Quelle est la tranche d'âge la plus touchée ?
Alors, en fait, il semblerait, les études montrent que dans tous les pays, il y a 10% de la population qui est touchée par les troubles 10. Donc, un jeune, un adulte sur 10. Et en fait, c'est un handicap, le trouble 10. Ça veut dire que ce n'est pas une maladie dont on guérit, mais ça reste un handicap qu'on conserve toute sa vie. Donc en fait, souvent, on parle de dyslexie, dysorthographie. Donc effectivement, c'est l'école qui repère, en général, ou la maman, ou le papa. Mais toute sa vie, on reste avec son trouble, qu'on peut compenser. Mais malgré tout, on est dyslexique et on meurt dyslexique. Donc il y a, en fait, du moment qu'on est touché, à n'importe quel âge, on reste touché par ce trouble. Ça reste une difficulté.
Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les troubles 10 ?
Alors, il y en a un certain nombre. Donc, tout d'abord, la dyslexie. Donc, 10, ça signifie un handicap très important. Et lexie, ça signifie lecture. Donc, une difficulté pour lire et donc une grande lenteur. Comme l'enfant essaye de lire aussi vite que les autres, il va y avoir énormément d'erreurs. Et s'il y a beaucoup d'erreurs, il y a parfois un accès à la compréhension qui peut être altéré. L'enfant comprend la trame principale, mais il y a beaucoup de détails qu'il n'a pas pu... soit parce qu'il s'est trompé de mot, il a lu parachute au lieu de parapente, soit parce qu'il n'a pas pu tout lire correctement. Donc ça, c'est la dyslexie, sachant que la lecture est une activité tout à fait naturelle. Et que quelqu'un qui n'est pas dyslexique accède à la lecture sans problème particulier. Donc pour eux, c'est quelque chose qui est toujours coûteux, toute leur vie. Ensuite, la dysorthographie, pareil, un handicap pour l'orthographe. Donc écrire correctement les mots, c'est extrêmement difficile. C'est comme si leur cerveau n'arrivait pas à enregistrer le mot écrit. Alors qu'un enfant tout venant va lire un mot dans 9 contextes différents, va pouvoir l'enregistrer, un enfant dysorthographique ne parvient pas à enregistrer le mot. Donc, il va essayer de trouver des petits moyens mnémotechniques pour l'enregistrer. Par exemple, un avion décolle avec... il a 2 ailes, donc décoller, il y a 2 ailes, puisque... voilà. Donc ça, c'est la dysorthographie, sachant qu'ensuite, l'enfant peut apprendre la conjugaison par cœur, mais quand il faut mettre une terminaison à un verbe, ça reste extrêmement difficile, plus les accords. Ensuite, il y a la dyscalculie, donc là, c'est une difficulté pour les chiffres, la logique et les mathématiques. Dysphasique, ce sont les enfants qui ont des difficultés avec le langage oral. Soit dans la réception du message, ils ne comprennent pas exactement voire pas du tout. C'est comme si on lui en parlait en chinois. Et eux-mêmes, parfois, on peut ne pas les comprendre quand ils s'expriment. Donc soit ça peut être un style télégraphique, soit carrément une langue étrangère, qu'on a l'impression qu'ils parlent leur propre langue, leur propre langage. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La dysgraphie, donc ce sont des difficultés pour le graphisme. Donc là, c'est plutôt l'ergothérapeute. Et la dyspraxie, c'est une difficulté pour la manipulation, une maladresse. Et là, c'est plutôt la psychomotricienne ou le psychomotricien qui va rééduquer.
Est-ce que des personnes peuvent avoir plusieurs types de dyslexie en même temps ?
En fait, oui, on peut être dyscalculique, dyslexique, dysorthographique, dyspraxique. Oui, on peut cumuler, hélas.
Qu'est-ce qui fonctionne différemment dans un cerveau 10, entre guillemets ?
Eh bien, on ne sait pas. Il y a eu beaucoup de recherches. Et aujourd'hui, il y a eu plein d'axes de recherche. Est-ce que c'était la vue? Est-ce que il y en a même qui, à un moment donné, se sont dit au niveau des semelles orthopédiques, ça pouvait aider les enfants avec des troubles 10. Et en fin de compte, aujourd'hui, ils continuent à faire beaucoup de recherches, mais on ne saura pas dire exactement qu'est-ce qui fait qu'un enfant a un trouble 10. En revanche, il y a un facteur génétique, c'est-à-dire que si un des deux parents à un trouble 10, il y a 50% de chances qu'il en réchappe et 50% de chances qu'effectivement, il ait un trouble 10. Très souvent, l'enfant est 10 et quand on pose la question, le parent, le grand-parent, la maman, enfin, il y a souvent des cas de... Mais il peut y avoir des familles où, tout à coup, aucune personne n'a été touchée et malgré tout, il y a un enfant qui a un trouble 10. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'intelligence, par exemple, on ne peut pas dire... Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant? Pourquoi certains enfants sont plus intelligents que d'autres? Voire certains HPI. C'est pas la quantité de neurones, c'est pas forcément les connexions, mais malgré tout, on voit des différences au niveau de l'intelligence. Et bien, pour les dyslexies, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On en aura peut-être un jour, mais on ne sait pas.
Quels sont les différents facteurs qui déterminent si un élève 10 a besoin d'un suivi en orthophonie ou pas?
J'imagine l'école. C'est que si un élève réussit à l'école... En fait, c'est le besoin. Est-ce que l'enfant est en difficulté? Souvent, les enfants 10 se sont collés une étiquette « je suis nul » puisque les autres y arrivent sans difficulté, de manière très naturelle. Or, eux, lire, c'est compliqué, écrire, c'est compliqué, faire des mathématiques, ils n'y comprennent rien. Donc, au bout d'un moment, ils se disent « je suis nul ». Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir une orthophoniste, au moins pour enlever cette étiquette, en lui disant « tu n'y es pour rien, tu es né comme ça ». À partir de là, soit tu peux en vouloir à tes parents, mais eux-mêmes, enfin, on peut remonter loin, soit tu l'acceptes une bonne fois pour toutes, et il faut que tu acceptes de travailler beaucoup plus que les autres, et quelquefois, les résultats seront bien moins bons. Donc, c'est ça qu'il faut que tu arrives à... Soit tu peux être en colère, et pourquoi pas, mais au bout d'un moment, je pense que le mieux, c'est que tu l'acceptes et que tu en fasses quelque chose et tu peux réussir toutes les études que tu veux, mais toujours en travaillant beaucoup, beaucoup plus que les autres.
Quels sont les outils et les méthodes que vous utilisez pour aider les élèves ayant des troubles du langage et de l'apprentissage ?
Des jeux, beaucoup de jeux, crayons, papier et jeux. La pâte à modeler, enfin, ça fait, voilà. Quelquefois, je propose un petit jeu, enfin, un petit jeu ludique de logique, et rien que le fait de le faire, l'enfant qui pense qu'effectivement, il est pas bon, il est nul, il se rend compte qu'il est capable. Donc, on rassure beaucoup l'enfant et les parents en leur disant, mais l'intelligence n'est pas touchée, on a des HPI qui peuvent être 10, enfin, voilà, on essaye de rassurer. Et donc, oui, majoritairement des jeux. Il faut que l'enfant se fasse plaisir, oui, pendant la séance. Et moi, beaucoup le rire. J'essaie de le faire rire. Je fais beaucoup de grimaces, parce que je me dis que s'il est détendu, comme émotion, ça permet de rentrer des notions dans le cerveau.
Que pourraient faire les profs ou les parents pour mieux aider un enfant 10?
Le soutenir, ne pas s'agacer quand l'enfant n'y arrive pas, le rassurer, être à son écoute, éventuellement raconter son propre parcours scolaire, qui parfois est tellement chaotique que l'enfant peut se reconnaître. Enfin, voilà. Essayer de mettre en place un PAP, des aménagements scolaires, pour que ses notes reflètent sa motivation, son travail, et pas les difficultés en français. Et les profs, vraiment, suivre les aménagements scolaires, donner peut-être parfois, plutôt que de passer à l'écrit, valoriser beaucoup les efforts et peut-être passer à l'oral pour compléter, pour rehausser une note. Oui, mettre bien en place un PAP avec des aménagements.
Vous avez utilisé le terme PAP, mais pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le PAP, c'est un plan d'accompagnement personnalisé. C'est un contrat entre l'école et la famille du jeune et le jeune. Et ça permet de mettre en place des aménagements scolaires, et notamment le tiers-temps. L'enfant, pendant les évaluations, a droit à du temps en plus ou une question en moins, et également pendant les examens.
Existe-t-il des exercices que les élèves peuvent faire eux-mêmes pour progresser en dehors des séances ?
Alors, en dehors des séances, on peut leur donner des choses à faire, hein, qui revoient ce qu'on a vu pendant la séance. La rééducation ira plus vite. Et sinon, la lecture. Beaucoup de lecture et beaucoup moins de temps passé devant les écrans. Si possible, une demi-heure par jour, même grand, ça serait l'idéal pour préserver vos cerveaux qui sont immatures. Moi, j'ai un vieux cerveau tout pourri, c'est pas grave si je passe mes soirées devant les écrans, à la limite. Ce que j'ai fait est fait, mais en revanche, vous, vous avez des cerveaux immatures, donc en pleine construction, et tout le temps passé devant les écrans, ça n'aide pas votre cerveau à se développer. Il y a même, il semblerait, au niveau des études et de la recherche, qu'au-delà de 3 heures par jour, le QI des enfants baisse. C'est-à-dire qu'un enfant, comme ça, à 10 ans et puis à 18 ans, et donc les enfants, on avait calculé leur QI à 10 ans, donc leur quotient intellectuel, leur intelligence, et on avait deux populations, une population à moins d'une demi-heure d'écran par jour, et la deuxième population, la deuxième cohorte, c'était 3 heures et plus. Et 10 ans après, ils ont refait les tests de QI pour ces mêmes enfants. Les enfants qui avaient une demi-heure et moins avaient un QI auquel on s'attendait, et les autres enfants avaient perdu de quotient intellectuel. Donc il semblerait que pour l'intelligence, ça ne soit pas l'idéal.
Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Moi, j'aimerais vous poser une question. Si vous deviez définir le travail, pour vous, que représente le travail ? Et de me donner 3 mots qui, pour vous, représentent le travail en général.
Pour moi, ça signifie la passion. Parce que pour moi, c'est très important d'aimer son travail pour bien le pratiquer et pour pas voir le temps passer. Et voilà.
S'investir. Il faut s'investir dans son travail, de ce qu'on fait.
Pour moi, la définition du travail, c'est une activité qui nous sollicite pendant un certain temps. Enfin...
Le travail, pour moi, ça sert juste à survivre. Ça a de l'argent, tu payes et c'est tout.
Pour moi, le travail, c'est... plutôt une question d'intérêt, parce que si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent, et pas d'argent, bah, pas de foyer. Et je veux aussi partager du côté de Tessa qu'il faut se plaire en fait, dans son travail, parce que sinon, ce n'est pas du tout agréable à passer une journée déjà à son travail. Si on n'aime pas, ça ne sert à rien.
Parce qu'on a parlé beaucoup des troubles 10, mais quel genre de personnes vous accueillez chez vous Qu'est-ce que ça englobe comme profession et comme troubles à traiter?
Alors en fait, on peut recevoir des tout petits, des bébés qui ont des problèmes de déglutition, jusqu'à la personne très âgée, avec une maladie neurodégénérative ou un AVC. Donc ça touche vraiment tous les âges. On va travailler la communication, donc ça peut être l'articulation, mais on en fait très peu, le bégaiement, la voix. Donc soit parce qu'on est aphone, parce qu'on maîtrise, enfin on utilise mal ses cordes vocales. La voix œsophagienne aussi, quand on a des cancers au niveau de l'œsophage, comment parler autrement pour pouvoir continuer à s'exprimer. Donc tous les troubles 10, oui, AVC, en fait c'est tout ce qui est communication orale, écrite, ou mathématique même.
On termine par notre question traditionnelle. Que pensez-vous des radios en milieu scolaire comme Info RC ?
Eh ben, je trouve ça génial. De toute façon, tout ce que vous faites, vous, les jeunes, c'est très bien. Hein. Allez-y, faites, ayez des initiatives. C'est vous qui allez bouleverser et changer ce monde. Donc, la radio, pourquoi pas. Enfin, tout média, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Je compte sur vous. Hein.
Merci à Madame Chaniac d'avoir accepté notre invitation dans le cadre des parcours santé et avenir. Aujourd'hui, dans le magazine Mosaïque sur Info RC, Yvan, Mathurin, Tessa, Omar et moi-même, Tatiana, recevions une orthophoniste basée en Ardèche.
Merci à vous pour toutes ces questions. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à l'ensemble de vos questions. Et continuez à être curieux et ouvert sur le monde et tolérant.
Mosaïque.
Chaque semaine, une interview pour mieux connaître les acteurs de la vie locale.
S'ouvrir sur le monde, sur les cultures, découvrir leur parcours.
Parce que s'écouter les uns les autres, transmettre, c'est apprendre à vivre ensemble.